Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Simon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous appelle pour un interview qui concerne le chœur Odyssée qui va chanter Monteverdi à la cathédrale de Die le dimanche 2 octobre à 16h. Vous-même dirigez ce chœur, comment dit-on ?
Oui, eh bien, moi je suis chef de chœur, c'est mon métier, je dirige plusieurs chorales dans le département, mais parmi toutes ces chorales que je dirige, j'ai créé le chœur Odyssée. Et donc j'aime bien ce nom, parce que c'est un petit ensemble, et ça fait penser au chœur, mais ça s'écrit avec un H, évidemment, CH, c'est un petit ensemble que j'ai créé qui est particulièrement dédié à mes projets les plus originaux, et notamment qui concerne beaucoup la musique ancienne, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque baroque.
Rien à voir donc avec l'Odyssée d'Homère et peut-être les sirènes.
Eh bien, peut-être que si, justement, parce que étant moi-même d'origine franco-grecque, de par mon grand-père et ma mère, j'ai été bercé au biberon par l'Odyssée d'Homère, effectivement. Et donc, c'est une histoire que je connais fort bien. Et peut-être que ce nom, je l'ai choisi dès la création du chœur. En 2005, lorsque j'ai créé ce groupe, j'ai trouvé quelque chose d'aventureux qui correspondait sans doute à mon désir de faire découvrir. Vous voyez, quand un odyssée, c'est un voyage où on part à la découverte de choses qu'on connaît pas. Et c'est vrai que dans le répertoire choral, bon, il y a beaucoup de choses qui sont très connues. Hein. Alors, pour les grandes chorales, je ne citerai que tous les requiem. Mozart, Fauré, Verdi, etc., qui sont des chefs-d'œuvre magnifiques, mais qu'on a souvent beaucoup entendu. Et mon désir, c'était de partir à la découverte et de faire, d'emmener avec moi des choristes, c'est-à-dire des choristes ayant déjà de l'expérience et motivés pour faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément entendues, qu'on n'allait pas forcément pouvoir entendre sur des CD, sur des disques, avant de les chanter, les créer nous-mêmes. Bon, je dirais pas créer, parce que ces œuvres du Moyen-Âge à l'époque baroque, elles ont forcément été chantées, mais plus tellement. Il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas tellement. Et donc, c'était mon souhait de partir avec dans cette odyssée, ce voyage à la découverte, aussi bien pour les choristes qui voulaient s'engager avec moi, donc faire partie du chœur Odyssée, que pour le public, hein, parce qu'évidemment, pour moi, la grande rencontre, c'est d'amener mes choristes à la rencontre du public et faire découvrir au public des musiques pas connues et de découvrir que c'est un grand plaisir, que c'est magnifique, que c'est des choses qui sont très vivantes et qui peuvent être chantées aussi avec l'émotion que peut donner un chœur amateur motivé. Voilà.
Donc c'est une envie de voyager dans la musique et dans le chant en particulier qui vous a poussé à créer donc en 2005 ce chœur Odyssée, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le chant c'est une belle aventure aussi. Alors ça aussi c'est un voyage. Je pense que pour chacun d'entre nous, tous les gens, tous les amoureux du chant choral, tous les amoureux du chant, et j'en connais beaucoup puisque je dirige tout au long de la semaine 7 différentes chorales, alors sur des répertoires totalement différents qui vont de la chanson française aux musiques du monde, en passant par le classique, la variété, des chœurs de jeunes aussi où on fait des choses plus actuelles, et donc jusqu'au répertoire du chœur Odyssée qui va fouiller plus avant sur des musiques un peu oubliées, mais toujours très vivantes. Alors je disais, ce voyage, oui, il s'adresse aussi à chaque mélomane, chaque choriste, parce que chanter, c'est une aventure. Voilà. Quand on a le désir de chanter, on ose partir à la découverte de soi-même. Et bien des gens me le disent dans toutes mes chorales, eh ben oui, c'est aussi chanter, ça fait du bien, c'est ça donne de la joie au cœur, ça fait découvrir des parties de nous-mêmes qu'on n'a peut-être pas l'occasion de voir si on se lance pas dans cette activité vocale. C'est ça, là aussi, c'est un voyage, c'est un odyssée. Donc on part à la découverte de soi-même quand on chante, parce que on se met à nu. Vous savez, chanter, c'est oser se mettre à nu. On n'est pas caché derrière un instrument. On est soi-même son propre instrument. Donc quand on commence les séances de chœur avec n'importe quel groupe que je dirige, on commence par un échauffement corporel, un court échauffement corporel qui nous permet de nous retrouver dans le domaine du sensoriel. Et puis tout ça, évidemment, ça ne peut se faire que de façon ludique, un peu drôle, parce que chanter, c'est aussi redevenir gamin, c'est retrouver son naturel. Voilà, donc ça aussi, c'est un odyssée pour chacun de mes choristes.
Au niveau choriste, ça représente combien de personnes au chœur, donc, qui vous accompagnent ?
Alors, le chœur Odyssée, l'objectif, c'était de fonder un petit chœur, pas trop nombreux, que je puisse entendre un peu toutes les couleurs de voix, les reconnaître, pouvoir confier certaines parties à certains de mes choristes. Et puis aussi parce que mon projet, s'adresse pas forcément à tout le monde. Donc le chœur, il est parti de, on a commencé avec une douzaine de choristes et petit à petit ça a été assez fluctuant selon les années. On s'est retrouvé donc à Puy-Saint-Martin. J'ai créé ce groupe en 2005. Puy-Saint-Martin, vous voyez, c'est un petit village qui est entre Montélimar et Cré et Dieu le fit. Et donc je me retrouve effectivement avec tous les gens qui sont intéressés par mon projet, viennent de Montélimar, de Dieu le fit, de Cré ou de la campagne autour, ou même d'un peu plus loin. J'ai un choriste qui vient de Saint-Pantaléon-les-Vignes, un autre de pas loin de Die, vers Chény. J'avais un choriste aussi qui venait d'Alba-la-Romaine. Là, on a fluctué entre 12 et puis ça a été jusqu'à 25. Certaines années où on a fait en 2011 et en 2012 deux fois de suite des projets un petit peu d'envergure et qui nous ont permis de proposer des spectacles à la fête médiévale de Cré, qui est une fête un petit peu connue. Et là on était à peu près 25 choristes. Là, c'était l'époque où on était peut-être le plus nombreux, puisque en même temps que ces 25 choristes, il y avait des chœurs d'enfants que j'allais initier dans différentes écoles du département et qui venaient nous retrouver pour les concerts avec une partie commune, chœur adulte et chœur de jeunes. Et voilà, c'est un gros projet, qui a été aussi un peu dur à monter parce que c'était toute une infrastructure où on a été obligé d'aller demander un peu de l'aide, notamment à la région, pour engager des musiciens professionnels avec nous. Donc ça, c'était en 2011-2012. Trois musiciens spécialisés sur des instruments du Moyen-Âge, un récitant, et tout ça avec nos chœurs d'enfants et mon chœur de 25 choristes. Là, actuellement, on s'est recentré sur un chœur de 15 personnes. On est à peu près 16. On est 16 à Puy-Saint-Martin. Et alors, nouveauté, depuis quelques années, je suis maintenant sur Chabeuil. Et donc, on a créé une antenne de l'association Chœur Odyssée à Chabeuil. Et on a un nouveau groupe, un deuxième Chœur Odyssée sur Chabeuil, et qui, lui, est constitué de 18 choristes. Vous voyez, donc quand les deux groupes se retrouvent à l'occasion des concerts, c'est assez passionnant pour moi, parce que pour le public, c'est aussi intéressant de voir une architecture sonore variable. De temps en temps, on a un petit chœur de 12-15 personnes qui chantent. Cette année, on a mis le cap sur Monteverdi, c'est la messe à quatre voix de Monteverdi. Et donc, on a de temps en temps ce petit chœur qui chante le propre de la... Non, pardon, qui chante l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Et puis, de temps en temps, on a le chœur entier, c'est-à-dire les deux groupes réunis qui font une bonne trentaine de choristes. qui viennent nous surprendre avec quelques motets ou psaumes, soit de Monteverdi lui-même, soit de quelques compositeurs de l'époque, ou bien des grands maîtres encore de Monteverdi. Voilà, donc on passe de 12 à 30 choristes pendant notre concert, qu'on redonnera donc qu'on va donner bientôt le 2 octobre à la cathédrale de Die. C'est en fait le même concert qu'on a donné avec grand bonheur à l'église de Chabeuil le 12 juin dernier, où là on a beaucoup joué sur l'acoustique. C'est intéressant évidemment dans des lieux avec des grandes acoustiques généreuses qui résonnent. Ces églises sont faites pour la musique sacrée, et notamment l'église de Chabeuil avait quelques tribunes en hauteur, et pas simplement une, mais deux ou trois, et on a pu disposer les effectifs du chœur en double chœur. Une partie répondait à la tribune, au chœur qui était à l'autre partie du chœur qui était en bas. Voilà, donc c'était particulier peut-être à ce programme qu'on a le grand plaisir de pouvoir redonner à la cathédrale de Die le dimanche 2 octobre. C'est un programme de musique sacrée qui tourne autour de Monteverdi, donc peut-être que c'est là-dessus que vous souhaiteriez que je parle un petit peu de ce répertoire, peut-être.
Vous nous avez fait parvenir 5 extraits sonores, donc il y en a 2 effectivement de Monteverdi, puis il y en a 3 autres, donc de Constantini, par exemple le premier extrait,
oui,
qui s'appelle...
Constantini, oui, c'est un compositeur vraiment très très peu connu. Il a d'ailleurs très peu écrit, mais bon, c'est vrai, je passe un peu du temps à faire des recherches hein, dans des bibliothèques, des partitions, dans des recueils, pour trouver des œuvres intéressantes, pour monter un programme. L'objectif dans notre concert, c'était de monter un programme qui est un petit peu un thème, donc c'était une sorte de liturgie. Et voilà, j'ai choisi ce motet qu'on va peut-être écouter. Alors ce motet de Costantini, qui est écrit à 3 voix égales. Alors qu'est-ce que ça veut dire 3 voix égales? C'est soit 3 voix de femme, soit 3 voix d'homme. Alors à l'époque de Costantini, qui est à peu près un contemporain de Monteverdi, eh bien c'était plutôt les hommes qu'on entendait chanter, évidemment. Et moi, j'ai trouvé intéressant, parce que bon, il y a toujours une part de création dans le travail d'un chef de chœur, d'un directeur musical. J'ai trouvé intéressant à cette occasion, faire répondre les voix d'hommes et les voix de femmes, qui souvent chantent à voix mixte, c'est-à-dire les hommes et les femmes ensemble, souvent à 4 voix mixtes. Et là, tout d'un coup, eh bien, ce motet, c'était l'occasion d'entendre les voix de femmes répondre aux voix d'hommes. Voilà, donc on va entendre dans ce motet de Costantini, Confitemini Domino, les voix de femmes, donc 3 voix de femmes, les sopranes, les mezzo, les alti, à 3 voix de femmes qui vont répondre aux voix d'hommes, ténor, baryton et basse, pour une espèce de dialogue joyeux sur une musique qui dit, vous voyez, qui est pleine de confiance, confiance au Seigneur, voilà.
Eh bien, nous écoutons. Passer sur un univers autour de Monteverdi, comme vous dites, donc on aurait affaire à écouter même pendant ce concert d'autres compositeurs comme Byrd par exemple.
Oui, comme je vous disais, j'ai fait le choix de présenter notre programme de concert un petit peu comme une liturgie, comme une messe se déroule, c'est-à-dire avec des psaumes, avec des moments plus recueillis. Il y a même un chant grégorien qui introduit le concert, donnant cet élément un peu recueilli, fervent, qui était toujours chanté. Donc à l'époque de Monteverdi, l'idée c'était de repartir un petit peu sur une espèce de recréation de cette messe. Imaginez comment Monteverdi avait pu donner cette messe à l'époque où il l'a écrite et quand il l'a donnée, eh ben, c'était dans les dernières années de sa vie, où il venait d'être nommé chef de chœur, maître de chapelle à la grande basilique San Marco à Venise. Donc c'est un poste qu'il avait toujours rêvé d'obtenir, et après avoir écrit beaucoup de magnifiques musiques plus profanes, comme tout le monde connaît évidemment l'Orfeo, eh bien il s'est lancé sur la musique sacrée avec son originalité, sa fougue, et j'ai essayé d'imaginer comment aurait pu être représentée cette messe qui fait partie, en fait, la messe à quatre voix qu'on donne le 2 octobre, fait partie d'un grand recueil qui s'appelle Selva Morale e Spirituale, ce qui veut dire la forêt morale et spirituelle. Donc c'est une espèce d'immense forêt, effectivement, où il y a plein d'œuvres qu'il a dû composer au cours de différentes années, qu'il a regroupées à la fin de sa vie. Et donc, à l'époque où il était effectivement maître de chapelle à San Marco. Donc j'imaginais, entre les différentes parties de la messe, voilà, une messe qui peut sembler peut-être un petit peu monotone si on enchaîne toutes les parties de ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, Kyrie, puis Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Voilà, il manquerait plein de choses, comme un chant plus recueilli pour la communion, ou des psaumes de louange, un offertoire aussi plus recueilli. Donc j'ai essayé d'imaginer quelle pouvait être cette messe que Monteverdi aurait donnée à San Marco, en s'inspirant des grands maîtres que lui-même avait eus. Alors vous parliez de William Byrd. William Byrd est évidemment un des grands maîtres de Monteverdi. Hein. Il y a eu Cipriano d'Aurore, surtout pour la partie des madrigaux. Mais il y a eu évidemment Palestrina, le célèbre Palestrina. Et puis William Byrd. Alors William Byrd, c'est un grand compositeur, donc évidemment d'une génération antérieure. Hein. Il aurait pu être le grand-père de Monteverdi, je pense. C'était un grand compositeur anglais qui a écrit aussi bien en langue pour le culte, en langue anglaise pour le culte anglican, que en latin. Il a écrit des choses magnifiques de musique sacrée. Et donc Monteverdi ne pouvait pas ne pas le connaître, et on entend bien même les influences dans la musique de Monteverdi, de la musique de William Byrd. Et donc on a pris cet extrait, Ecce Dies, alors Ecce Dies est un motet qui normalement est chanté le jour de Pâques, et les paroles disent ce jour, Ecce Dies, ce jour que fit le Seigneur, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Et là je me revois en train de donner la couleur à mes choristes, parce que quand on apprend une œuvre dès le début, il faut pouvoir lui donner la couleur qui va la faire vivre. Il ne s'agit pas simplement de déchiffrer des notes. Donc je leur disais, ben vous imaginez, le soleil, le jour se lève, l'aube vient de pointer, on ouvre sa fenêtre et puis on entend les oiseaux qui commencent à chanter, le soleil qui pointe à l'horizon, et voilà, c'est merveilleux. Et chaque jour, on est émerveillé par la beauté de la création, ben c'est ça. Ecce dies quam fecit Dominus exultemus. Ce jour que fit le Seigneur, réjouissons-nous, exultons. Et le motet donc commence d'abord avec ma harpe. C'est une harpe médiévale que j'ai osé jouer jusqu'à l'époque de Monteverdi. Je suis en train de me tourner vers des instruments de l'époque de Monteverdi. On entend donc dans l'extrait sonore la harpe qui fait tout le début du motet de William Byrd, pour arriver finalement sur les voix qui vont chanter le motet de Byrd. Voilà.
Eh bien, écoutons ce morceau, donc Ecce Dies, si je le prononce bien. Voilà. Et donc, après...
Alors, oui. Juste une petite question.
Oui.
Je ne sais pas si entre nous, pour le motet Ecce Dies, est-ce que vous passez l'extrait en entier. Donc s'il y a l'extrait en entier, c'est comme je vous ai dit, là je viens de le dire, il y a d'abord une introduction de harpe, et puis ensuite les voix qui commencent.
Mmh.
passé ensuite à Menegali. Donc, c'est un compositeur aussi italien du XVIIIe siècle.
Oui, là aussi, un compositeur assez peu connu. Je crois ne connaître de lui que trois œuvres, en tout cas trois œuvres pour chœur, chorale. C'est vrai, je suis tombé dessus par hasard. Je dois dire que c'est même mais bon, le hasard, c'est peut-être pas souvent un très bon mot. En fait, il se trouve que mon épouse chante dans le chœur et c'est elle qui, de temps en temps, fait des vagabondes sur le net à chercher des morceaux. Et voilà, on est tombé dessus au coin en naviguant un peu, comme on dit, en surfant. Et on est tombé là-dessus, morceau merveilleux de mystère. À la fois simple et puis profond, parce que souvent quand un morceau choral est simple, eh bien ça peut être une difficulté parce que c'est tellement simple, tellement sobre, qu'il faut vraiment y mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'âme pour que ce soit beau. Et voilà, ce qui est assez touchant, c'est que l'image que je revois en dehors de l'image sonore que j'en ai dans mon oreille, c'est l'image des deux chœurs, les deux chœurs Odyssée, l'un et l'autre disposés, l'un au fond du chœur et puis l'autre à la tribune, et qui commencent et qui se répondent l'un après l'autre dans l'espace. Voilà, avec avec une musique assez mystérieuse, Jésus Salvator Mundi, Jésus Sauveur du monde, autour de tes fidèles. Et c'est un chant qui nous a beaucoup plu et je pense qui a permis en tout cas aux deux chœurs de fusionner en se répondant et ensuite en partant à l'unisson.
Alors nous écoutons Jésus Salvator Mundi. Simon, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes musicien vous-même? Comme vous le dites, vous jouez de la harpe, mais vous avez une formation de musicien, je suppose, d'un conservatoire peut-être?
Oui, j'ai une formation assez variée, en fait. C'est une formation même très diversifiée, parce que là aussi, c'est mon odyssée. Voilà, je pense que l'odyssée convient bien à mon parcours. J'étais tout jeune passionné de musique, hein, dès mes 8 ans. Je me rappelle aller tapoter, improviser sur le piano que mon oncle avait laissé chez mes grands-parents. Je me suis pris d'amour pour la musique de très bonne heure. Et petit à petit, en apprenant le piano, la musique classique, je me suis passionné ensuite pour le jazz. Je me suis retrouvé à 17 ans pianiste de jazz au caveau de la Huchette à Paris, vous voyez. Je me suis retrouvé ensuite, un peu plus tard, à accompagner des musiciens de différents pays, en fait des musiques, ce qu'on dirait des musiciens de tradition extra-européenne, des musiciens congolais, des musiciens antillais, des argentins. Et j'ai appris beaucoup au contact de ces musiciens qui eux ne savent pas lire une note de musique. Pour eux, la musique se passe bien autrement, dans les oreilles, dans le vécu de la pratique instrumentale. Et c'est vrai, j'ai appris beaucoup avec ces gens-là, comment on pouvait être musicien sans lire une note de musique. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est un retour du sort. Je me retrouve souvent avec, dans mes chorales, beaucoup de gens qui ne savent pas lire une note de musique. C'est un peu partagé. Dans certains chœurs, ben, j'ai des petits groupes qui savent, qui connaissent les rudiments de la lecture du solfège, et d'autres pas du tout. Et donc je jongle avec ça. J'ai eu aussi moi-même, je me rappelle quand j'étais jeune, je reviens à j'ai un petit peu, comment dirais-je, ce parcours d'autodidacte, vous voyez. Et donc je me suis appris moi-même par moment, parce que les méthodes d'autrefois du solfège étaient un petit peu rébarbatives. Et donc je m'étais mis moi-même, j'ai dit non, c'est pas assez artistique pour moi, j'ai pas envie de me dégoûter à apprendre tout ça. Donc je m'étais un petit peu obligé à par exemple écouter des disques et puis relever tout ce que j'entendais sur une feuille de papier musique, ou bien j'ai accompagné des gens en faisant du bal. Là, bonne école pour l'oreille, parce que j'étais obligé d'accompagner des gens qui arrivaient, qui avaient même des fois même pas de partition, où il fallait deviner. Bon, ça c'était ma formation. Puis après, bon, bah j'ai complété tout ça, évidemment, avec des écoles un peu plus sérieuses. J'ai travaillé au conservatoire de Manosque avec Philippe Raymond, voilà la médaille de piano. Le répertoire pianistique, évidemment, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Mais finalement, c'est pas sur celui-là que j'ai mis le cap, c'est sur le chant choral, l'énergie du groupe. Alors, j'ai beaucoup travaillé le chant à cette époque-là, à Aix-en-Provence, avec Elisabeth Camat, Lisa Seguet. Et j'ai aussi beaucoup travaillé les musiques anciennes, le chant grégorien, avec Dominique Vélard, avec Marcel Pérez, et les spécialistes de ces musiques anciennes, qui m'ont beaucoup passionné. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la musique médiévale des troubadours, ce qui m'a amené à apprendre la langue d'oc, la langue occitane, qui est une langue magnifique. Et un jour, ce sera peut-être un programme, programme plus tard d'une de mes chorales, de faire découvrir les œuvres des troubadours, qui sont assez méconnues, qui sont des chefs-d'œuvre de poésie et de musique. Voilà. Après, j'ai travaillé évidemment la direction de chœur après avoir été pris de passion tout seul. J'ai travaillé la direction de chœur à Villeurbanne, à l'École nationale de musique de Villeurbanne, avec Antoine Fink, avec Nicole Corti, Karine Locatelli, Jean-Baptiste Bertrand ou d'autres. J'ai fait pas mal de stages aussi avec des chœurs d'enfants ou des chœurs d'adultes. Et puis bon, bah très vite, je me suis retrouvé avec mes chorales à moi, et donc un public que je suis tellement heureux de revoir chaque année avec tant de fidélité depuis 2005, et puis d'autres groupes que j'ai créés en 2007, en 2008. Voir que tous ces gens sont là et ont envie de travailler avec moi, qui suis un professionnel, qui est pour spécificité, comme d'autres professionnels, je pense, de travailler avec des amateurs. Donc de communiquer ma passion de la musique à des amateurs. Et bon, beaucoup de gens peut-être aiment la passion que je leur insuffle, et puis aussi le fait que chanter, ça fait tellement bien. Ça nourrit l'esprit, le corps, ça guérit de beaucoup de choses, de chanter, je crois. C'est ce qu'on me dit souvent.
Et nous allons donc passer à Monteverdi, hein, proprement parler. Et pourquoi plus Monteverdi que d'autres compositeurs? Qu'est-ce qui vous passionne chez lui?
Alors, Monteverdi, j'ai toujours eu une passion pour ce compositeur. Qui est tellement original, qui a ouvert le rideau sur une musique. C'est pour moi une charnière entre entre la musique ancienne, la musique moderne. D'ailleurs, il a été lui-même sujet à de violentes critiques, un peu comme, vous savez, à l'époque, au début du XXe siècle, Stravinsky, le Sacre du Printemps, le scandale dont il a été, qui lui a fait finalement beaucoup de publicité, hein, parce que sa nouveauté, son côté novateur a choqué bien des oreilles. Ben Monteverdi, à l'époque, il a été beaucoup critiqué parce que il inventait des nouvelles choses. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, profondément enraciné dans une tradition très forte de polyphonie qui vient de ce qu'on appelle la polyphonie franco-flamande, hein, les compositeurs comme Josquin Desprez. Alors Josquin Desprez, c'est vraiment le... S'il y a un filon qui trace, hein, Josquin Desprez, Villaert, ensuite Cyprien de Rohr, qui est un compositeur aussi flamand, qui est venu faire sa carrière en Italie, à Venise lui aussi, mais bien avant Monteverdi. Il aurait pu être aussi son grand-père. Monteverdi d'ailleurs parle beaucoup de Cyprien de Rohr parce que c'est un des premiers compositeurs qui a développé le genre du madrigal. Et alors le madrigal, ben, quand on parle du madrigal, forcément on en vient à Monteverdi parce que c'est Monteverdi qui a porté ce genre à son point le plus élevé. Et après lui, ça s'est arrêté. Après lui, on passe tout d'un coup dans l'ère baroque. Et dans l'opéra, dans les voix solistes accompagnées avec ce qu'on appelle un continuo, alors que le madrigal, c'est passionnant pour un chef de chœur et pour des choristes. C'est passionnant parce que on baigne dans la polyphonie. Et c'est Claude Nougaro qui parle de son madrigal. Le madrigal, c'est une chanson à plusieurs voix. Donc la poésie, c'est un texte qui est construit sur une poésie subtile, pleine de d'images, hein, très imagées, et particulièrement dans la langue italienne. Et ben cette poésie passe dans la musique, elle est portée par la musique, mais pas avec une seule voix, avec 4, 5, 6 voix qui se répondent comme des échos. Tout d'un coup, il y a une architecture sonore, il y a 3 voix qui font une espèce de petit trio magique, vous voyez, comme dans La Flûte Enchantée, les 3 petits garçons qui chantent en s'envolant sur leur nacelle. Tout d'un coup, il y a 3 voix de femmes qui vont commencer, puis tout d'un coup, les 5 voix vont chanter ensemble, scander le verbe, scander les mots dans la musique de la langue italienne, bien ensemble, puis tout d'un coup, pouf, on va partir avec des échos. Alors les voix vont partir les unes après les autres avec des échos, donc c'est passionnant. Toutes les ressources de la polyphonie orchestrale, je dirais, est du coup appliquée aux voix. Alors pour des choristes, pour un chef de chœur, c'est évidemment passionnant. C'est un répertoire qu'on entend, je trouve, très peu. Ce petit aparté que je viens de faire... c'est un clin d'œil sur notre prochain programme, le prochain programme du Chœur Odyssée, qui sera tourné cette fois-ci vers les madrigaux de Monteverdi. Cette année, le programme qu'on a travaillé et qu'on va donner le 2 octobre ne sera pas autour des madrigaux, mais sera un programme de musique sacrée. Je reviens à Monteverdi après avoir développé le genre du madrigal. C'est aussi très rapidement lancé dans la musique sacrée. Alors, la plus connue de ces musiques sacrées s'appelle Les Vêpres de la Vierge Marie. Et ça date de 1610. Ça a été aussi donné. C'est peut-être l'œuvre qui a permis à Monteverdi de briguer le poste de maître de chapelle à Venise, à San Marco. Et effectivement, on imagine bien cette œuvre jouée là-bas. Et ensuite, donc, il a continué à composer des musiques sacrées avec un nouvel esprit. À la fois, donc, Monteverdi a cette particularité qui n'a jamais laissé tomber. Il est toujours solidement ancré dans la tradition, tout en étant aussi novateur, en amenant une expressivité jusqu'alors inouïe, quoi. Ce double côté. La messe de la messe Selva Morale et spirituale et qu'on va chanter, qu'on chante en ce moment, est une messe assez enracinée dans la tradition, avec des contrepoints, justement les voix d'hommes se répondent aux voix de femmes, et ça fait assez penser à Palestrina, par exemple, les grandes messes de Palestrina, tout en ayant ce petit côté flamboyant, par exemple dans le credo, et resurrexit, le passage de la résurrection tout d'un coup devient flamboyant, alors que à un moment juste avant ça, effectivement dans le credo, il y a ce passage très troublant, et incarnatus est, et c'est le passage de l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Alors peut-être qu'on peut écouter ce passage qui est dans les extraits, c'est le credo, l'extrait du credo,
oui.
Qui nous fait entendre le passage mystérieux du Et incarnatus est.
Quel était l'intérêt de tous ces compositeurs pour composer pour la musique religieuse ou pour pour le Vatican, pourrais-je dire, peut-être même.
Oui. Bah écoutez, comment l'expliquez-vous ? C'est une bonne question que vous me posez là. Je serais un petit peu embarrassé de vous répondre, de donner une réponse, mais je pense qu'on peut laisser la question avec toute sa puissance. Effectivement, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est que à cette époque-là et avant Monteverdi, je dirais que pour beaucoup, les plus belles œuvres qu'on peut trouver sont des œuvres de musique sacrée. Et puis, je crois que ça a bien continué aussi. Hein. Bon, après, il y a eu justement Monteverdi. Lui, il est à la charnière, et c'est pour ça qu'il est tellement passionnant. C'est que il est à la fois à la naissance de l'opéra, puisque l'Orfeo qui est associé souvent au nom de Monteverdi, hein, c'est le premier opéra de l'histoire, un opéra presque mythologique, puisqu'il parle du mythe d'Orphée avec sa lyre, et donc il est à la charnière, Monteverdi, de la naissance de l'opéra, encore les musiques sacrées du siècle de la Renaissance, qu'on entend, qu'on imagine sonner aussi au Vatican. Alors il avait brigué, il avait espéré être engagé au Vatican, mais finalement c'est à Venise qu'il a été demandé. Et Monteverdi, on voit peut-être qu'autrefois les compositeurs étaient vraiment particulièrement à créer pour la musique divine, je dirais. Monteverdi a fait les deux, et avec autant de bonheur. Et donc cette année, c'est la musique sacrée de Monteverdi que on va célébrer dans notre concert. Et là justement, pour notre concert du 2 octobre, il m'avait été donné à choisir par les Amis des Arts et du Musée qui organisent le concert entre le théâtre de Die ou bien la cathédrale. Et donc je suis allé voir, hein, je suis allé visiter les lieux et j'ai vu pour notre programme de musique sacrée, la cathédrale est le lieu idéal, évidemment, d'autant plus qu'il y a de l'espace pour l'architecture sonore dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Très bien, Philippe Simon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette émission et nous allons conclure avec ce morceau donc de Monteverdi, un extrait de Messe à quatre voix, avec
Kyrie qui est introduit avec la harpe et ensuite entonné par le chœur.
Voilà, et je rappelle aussi avant, ce concert donné le dimanche 2 octobre à la cathédrale de Die à 16h. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée de...
Oui, il y a un prix d'entrée. Alors, je crois me rappeler que c'est 10 euros l'entrée et 12 euros. Je crois qu'il y a des adhérents, 10 euros et 12 euros. Voilà, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. me semble-t-il. C'est ce qu'on fait habituellement.
Et vous-même avez un site internet
Tout à fait. On a un site internet qu'on vient petit à petit de monter, où on essaie de donner un peu nos actualités, quelques photos, quelques extraits sonores, et puis comment on recrute les gens qui sont intéressés. C'est Cœur Odyssée, donc C-H-O-E-U-R, Cœur Odyssée, comme l'Odyssée d'Homère. Hein.
En un seul mot.
Cœurodyssée.wordpress.com. Et je pense qu'en tapant Cœur Odyssée sur Internet, on doit pouvoir trouver.
Eh bien, Philippe Simon, je vous remercie d'être intervenu à cette interview.
Mais c'est moi qui vous remercie. J'étais enchanté de pouvoir parler de notre concert et j'espère que ce sera une belle rencontre avec le public là-bas.
Bonne
merci,
soirée.
Merci à vous.
Bonne soirée, au revoir.